Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. C'est l'heure du journal, Sophie Tussaud.
Train, avion, bus, à compter de lundi, vous n'y échapperez pas. Vous devrez montrer un pass sanitaire valide dans les transports. Alors comment ça va se passer? On vous dit tout en début de journal. Demain sera le quatrième samedi consécutif contre le pass sanitaire. Des manifestations sont prévues partout en France. Les forces de l'ordre craignent des débordements. 2021, année noire pour la production de vin en France. Elle est attendue à un niveau historiquement bas en raison d'une mauvaise météo conjuguée à des maladies qui attaquent la vigne. La reprise du championnat de France de Ligue 1, Monaco reçoit Nantes, Frédéric Hélion.
Et les joueurs rentrent à peine sur la pelouse avant la seconde période, un de partout entre les deux formations à la pause.
Merci Frédéric, on vous retrouve dans le journal. La météo, beaucoup de nuages et de la pluie, nous dira tout à l'heure Valérie Darmon.
Europe 1, écoutez le monde changer.
C'est lundi que l'extension du pass sanitaire entrera en vigueur. Il faudra donc le montrer pour aller au restaurant, boire un verre ou prendre les transports, c'est-à-dire pour monter dans l'avion ou prendre le train. Concrètement, comment ça va se passer, Maud Descamps ?
Eh bien écoutez Sophie, si vous vous rendez en gare ou dans un aéroport lundi matin, il faudra vous munir de votre titre de transport, de votre masque et de votre pass sanitaire en version numérique ou papier. Pour le train, vous pourrez être contrôlé à quai, à bord du train ou alors à sa descente. Dans les aéroports, la mise en place du pass ne changera pas grand-chose car les compagnies aériennes effectuaient déjà des contrôles depuis plusieurs semaines pour les vols internationaux. Votre pass sera contrôlé à l'embarquement et Air France ne prévoit pas d'allongement des temps d'embarquement. De son côté, la SNCF va essayer de fluidifier au maximum les contrôles pour éviter justement d'allonger les temps d'attente. Le transporteur a prévenu il y a quelques jours qu'il y aurait des contrôles massifs. C'est un défi pour la SNCF car il y a entre 300 000 et 400 000 voyageurs par jour au cœur de l'été. Une grande campagne de communication est également prévue en gare avec des annonces sonores, des stands d'information. Il y aura aussi des barnums de pharmacie pour des tests de dernière minute. Des gilets rouges et des gilets bleus seront également déployés pour renseigner les voyageurs. Et enfin, sachez que si vous n'avez pas de pass sanitaire, votre billet sera échangé ou remboursé sans frais. En revanche, si vous choisissez de tout de même monter à bord d'un train sans passe, alors là, vous risquez une amende de 135 euros.
Un mode décan du service économie d'Europe 1. Dans le secteur de la restauration, l'heure est au dernier préparatif. Les professionnels profitent des derniers jours pour mettre en place le dispositif de vérification des passes sanitaires de leurs clients. Et dans le deuxième arrondissement de Paris où vous vous êtes rendu, Marion Gauthier, ça se passe plutôt bien.
Oui, d'ailleurs, un restaurateur m'a accueilli tout sourire en me lançant « mieux vaut le pass qu'un autre reconfinement ». Tous les établissements s'y attendaient dans le quartier, ont déjà testé l'application qui permet de scanner les QR codes et préparer leurs équipes à la vigilance. Un client ne doit pas s'asseoir sans avoir été contrôlé, insiste Régis qui dirige un bistrot.
On a acheté un portable pour scanner les gens, on va dédier une personne au contrôle. On a mis en place un circuit pour les gens qui vont vouloir aller en terrasse. Enfin, on est prêt. Mais on ne sait pas comment les gens vont réagir, verbalement, comment le niveau de violence va être. Ça, c'est une grosse inquiétude.
Reste à savoir également qui va se charger du contrôle. Un poste à pourvoir loin d'être prisé. Plus qu'un week-end pour trancher. En attendant, les serveurs se rassurent auprès de leurs fidèles. À la terrasse d'un bar voisin, Patricia certifie de sa présence avec ou sans passe sanitaire.
Le matin, le café, de temps en temps, voilà, une petite boisson le soir. Moi, j'ai le papier sur le portable, j'ai aussi le format papier dans mon sac. Donc, s'il faut le présenter, je le présenterai.
Même rythme, mais une nouvelle habitude à prendre, donc, avant de s'attabler. L'association des maîtres restaurateurs craint d'ailleurs que les vérifications ne rebutent les clients et que le chiffre d'affaires baisse, comme celui des cinémas, depuis l'instauration du pass sanitaire.
Marion Gauthier, il y a 3 jours de l'entrée en vigueur du pass sanitaire, le gouvernement a tenu à rassurer les Français. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, promet une période de tolérance le temps que les professionnels des transports et du tourisme mettent en place le dispositif.
Il y a une semaine de rodage dans la mise en place du pass sanitaire. Mais de la même manière que lorsqu'il s'est mis en place, je crois que c'était le 21 juillet, pour un certain nombre d'activités de loisirs ou de culture, il y a eu une semaine de rodage, une semaine de mise en place, où évidemment les contrôles ne vont pas servir à sanctionner, mais d'abord à accompagner, à faire de la pédagogie. C'est un outil nouveau pour énormément de professionnels. Il faut qu'ils puissent se l'approprier, qu'ils voient comment ça fonctionne. Ça a évidemment un impact que nous ne minorons pas dans leur organisation au quotidien, notamment quand on est restaurateur, qu'on a une grande terrasse. Évidemment que c'est une contrainte supplémentaire. Mais je veux vraiment insister sur le fait que c'est cette contrainte qui nous permet de garantir à ces lieux qui peuvent rester ouverts dans un contexte où l'épidémie circule beaucoup. Donc oui, évidemment, semaine de tolérance, semaine de rodage, pour que les professionnels puissent s'approprier l'outil et qu'ils puissent vraiment le mettre en place dans les meilleures conditions.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui était en déplacement aujourd'hui en Avignon sur la vaccination. La vaccination, un message que continue de marteler Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Une question de citoyenneté, affirmé le président. Du côté des chiffres, la hausse des hospitalisations se poursuit. 862 nouvelles admissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures. 165 patients de plus se trouvent en réanimation. Ce week-end sera le quatrième consécutif de protestations contre le pass sanitaire et la vaccination. Des rassemblements sont prévus demain dans 150 villes de France. Les forces de l'ordre craignent de possibles débordements. Écoutez, Gaëlle James, elle est la secrétaire générale de Synergie Police.
Il y avait déjà une mobilisation avant la décision du Conseil constitutionnel, notamment par les antipasses. Donc forcément, avec cette décision, ça va cristalliser la situation. Et bien évidemment, les forces de l'ordre ont peur de débordements sur les prochains week-ends. Depuis trois samedis, le nombre de manifestants augmente. Il va falloir déjà canaliser, gérer ces véritables manifestants, si je puis dire, anti-pass sanitaire. Mais notre inquiétude, c'est surtout les individus qui s'accolent à ces manifestations uniquement pour en découdre, pour mettre le bazar, commettre des dégradations, s'en prendre aux forces de l'ordre, ce qu'on voit habituellement malheureusement sur les manifestations. Normalement, août, c'est une période assez calme. On a peur de la rentrée. On a peur de la situation telle qu'on l'a connue avec les gilets jaunes. On a peur que ça reprenne à la rentrée, quand tout le monde sera rentré.
Gaëlle James, secrétaire générale de Synergie Police, avec Marion Dubreuil pour Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit. Sophie Tussaud.
Dans l'actualité également, 2021 restera dans les annales comme une très mauvaise année pour les vignerons. Il pourrait même s'agir de la pire récolte depuis près d'un demi-siècle. Cette année, la production de vin est attendue à un niveau historiquement bas, en baisse de 24 à 30% selon les chiffres publiés ce matin par le ministère de l'Agriculture. Plusieurs facteurs à cela, le gel, le mauvais temps et les maladies sur les vignes. Jérôme Despé, président de la filière vin au sein de l'organisme France Agrimaire, évoque une année noire.
Ce que nous attendions avec l'épisode de gel du printemps se confirme. On avait, je me rappelle à l'époque, déclaré qu'on a risqué de perdre un tiers de notre potentiel de production. Malheureusement, en s'approchant de la vendange, c'est ce que nous constatons par une récolte qui sera donc faible dans de nombreuses régions. Une des plus petites depuis 50 ans, je dirais, puisqu'il y a eu effectivement des dégâts considérables avec cet épisode du gel du mois d'avril dernier.
À ça s'ajoutent les maladies de la vigne qui apparaissent compte tenu de la météo de ces dernières semaines très humides.
C'est-à-dire qu'on a de la malchance, puisque effectivement il y a eu notamment sur la partie nord, est, centre, des épisodes de pluviométrie donc importants, développant le mildiou qui va jusqu'à la perte du raisin. Il faut espérer que dans les prochains jours, le temps va s'améliorer, puisque bon, on est quand même maintenant à 3 semaines, 1 mois des premières vendages. On a 10 à 15 jours de retard par rapport donc à l'année dernière. Donc en espérant que en cette période estivale, le beau temps va revenir et permettre de préserver ce qui a été épargné par le gel dans les prochaines semaines.
Jérôme Despé, président de la filière vin au sein de l'organisme France Agrimaire, interrogé pour Europe 1 par Olivier Samin. On passe au sport, le football, pour commencer avec la reprise du championnat de France de Ligue 1, Lille, qui remet son titre en jeu. Et cette première journée a été ouverte par Monaco-Nantes. C'est la deuxième mi-temps. Comment ça se passe, Frédéric Lyon?
51 minutes ici au stade Louis II, Sophie. Un but partout entre les deux équipes. Les Nantais qui s'en sortent plutôt bien depuis le début de la rencontre, puisque ce sont les Monégasques qui dominent vraiment assez largement les débats depuis le début de la partie. Ça s'est d'ailleurs traduit dès la 8e minute avec une première énorme occasion pour les joueurs de Niko Kovac avec la recrue Myron Boadou, l'attaquant monégasque qui anticipe parfaitement une passe de son gardien de Blas. Il efface le portier nantais mais n'arrive pas à redresser sa frappe, un ballon qui va passer à côté des buts. Et puis 6 minutes plus tard, l'ouverture du score avec un superbe centre du latéral gauche monégasque Caio Henrique, repris au second poteau par Jelson Martins. S'en est suivi une domination, pas vraiment d'autres grosses situations pour les monégasques, mais vraiment une domination dans le jeu avec notamment 65 100% de possession du ballon. Et puis les Nantais, quasiment sur leur seule opportunité, ont égalisé un corner tiré de la droite vers la gauche par Simon. Et donc c'est Castelletto, le défenseur central, qui a propulsé ce ballon de la tête, qui est rentré dans les buts de Noble avec l'aide du poteau. 52 minutes de jeu, disons qu'ici au Stade Louis II, et un but partout pour l'instant entre Monégasque et Nantais.
Merci Frédéric Elion, on vous retrouve tout à l'heure. À suite de cette première journée, donc à suivre demain dans Europe 1 Sport, autour de Lionel Rousseau. Et la reprise de cette Ligue 1 est agitée par la possible arrivée de Lionel Messi au PSG. L'Argentin n'a pas prolongé son contrat au Barça et est donc libre de tout contrat. Et Paris apparaît comme une destination plus que probable, Cyril de la Morinerie.
Oui, le PSG est en pole position car le club raffole des superstars. Après Zlatan Ibrahimovic, Beckham, mais aussi Neymar, Mbappé et Ramos actuellement au club. Paris rêve désormais d'enrôler le sextuple Ballon d'Or, le prodige que toute la planète admire. D'ailleurs, cet après-midi, en conférence de presse, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a laissé entendre que ses dirigeants essayaient de recruter Lionel Messi.
Le club parallèlement travaille dans le mercato.
Le club travaille fortement, mais de façon discrète sur le recrutement. On sait ce qu'il s'est passé avec Lionel Messi, mais de notre côté, nous sommes entièrement focalisés sur le match de Troyes. Leonardo et notre président font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer l'équipe.
Comme Messi est libre, Paris n'aura pas de transfert à régler. En revanche, il faudra prendre en charge son salaire XXL, estimé à 75 millions d'euros. Alors évidemment, le Qatar peut tout payer, mais en réalité, l'opération est plus complexe car Paris est soumis au fair-play financier. Pour arriver à ses fins, le PSG devra vendre des joueurs pour environ 180 millions d'euros afin d'équilibrer les comptes. Une arrivée de Messi serait un argument choc pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger à Paris. Un autre prétendant, Manchester City, vient de jeter l'éponge. L'entraîneur mancunien Pep Guardiola a indiqué aujourd'hui que Léo Messi n'était pas dans ses plans. Dernière option, un départ aux États-Unis, championnat qui attire beaucoup de joueurs en fin de carrière.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Direction les Jeux Olympiques à présent avec la belle aventure des sports collectifs français. 5 ans après Rio, les handballeuses françaises se qualifient à nouveau pour une finale olympique. Elles ont battu la Suède 29-27. Les vice-championnes olympiques donc qui affronteront la Russie pour le titre. Écoutez leur entraîneur Olivier Krumbholz.
Bien sûr, nous sommes très heureux. C'est une grande victoire. Une grande victoire parce que le niveau de jeu était assez exceptionnel. On savait que c'était une excellente équipe qui a fait des progrès remarquables depuis quelques mois. On a réussi à garder la tête froide en deuxième mi-temps quand on avait fait un écart et que la Suède revenait vers nous. On a continué à marquer des buts. Et je pense que pour nous, c'est bien sûr une très grande satisfaction. On est très fiers de ce résultat. C'était un match exceptionnel et très heureux de l'avoir gagné.
Olivier Krumbholz, l'entraîneur des handballeuses françaises, avec notre envoyé spécial à Tokyo, Bruno Cuaz. Déception en revanche pour les basketteuses françaises qui devront se contenter de jouer le bronze après leur défaite face au Japon 87-71. Et puisqu'on parle basket, n'oubliez pas que la finale olympique messieurs France-États-Unis, ce sera dans le courant de la nuit prochaine à 4h30 du matin. On voit à présent vos conditions de circulation.
Europe 1. Le radio guidage sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, Agri et CNAPS.
Après une journée chargée, c'est très fluide hein, sur les routes. Ça roule très bien aux abords de la capitale. Quelques bouchons subsistent sur la 7 près d'Avignon et la 54 autour de Nîmes dans l'ouest. Ça coince également aux abords de Toulouse sur la 620 et la 624. Demain, Bison Futé déconseille de prendre la route. La journée est classée rouge au niveau national, noir en Rhône-Alpes. Il y aura également beaucoup de circulation dans le sens des retours. Ce sera orange au niveau national et rouge sur l'arc méditerranéen. La météo et à nouveau de la pluie dans le ciel demain. Valérie Darmon.
Effectivement, le temps sera assez homogène en ce samedi avec le retour de la pluie d'abord le matin de l'Aquitaine au Limousin et à l'Auvergne avant de se décaler vers l'est et vers la Méditerranée tout en se réactivant. C'est-à-dire que cette zone de pluie va s'intensifier et avant la mi-journée, les pluies tourneront à l'orage du nord de Midi-Pyrénées et du Languedoc au Massif central. jusqu'à la Bourgogne, la Franche-Comté, l'Alsace. Ces orages qui seront violents, qui vont donner des risques de grêle, des cumuls importants en quelques heures seulement, notamment sur le Gard, Rhône-Alpes et le massif du Jura. Soyez prudents si vous circulez en voiture. Sur l'est de PACA, le ciel aussi s'ennuagera et nous ne sommes pas non plus à l'abri sur le littoral méditerranéen de quelques averses. Ailleurs, nous avons toujours ces averses orageuses qui vont traverser la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes le matin, s'étendant au nord et à l'est jusqu'au centre et au nord de l'Aquitaine l'après-midi.
Merci Valérie Dabremont. On jette à présent un coup d'œil à la une de vos journaux demain de la politique. Titre Le Figaro à droite. La bataille pour 2022 s'accélère au cœur de l'été. Les candidats déclarés profitent des vacances pour enchaîner les déplacements de terrain. La multiplication des ambitions donne des arguments aux partisans de la primaire. La spectaculaire embellie de l'emploi pour Le Figaro Économie avec 239 500 créations nettes de postes de salariés dans le privé entre avril et juin. La France retrouve son niveau d'avant-crise. Libération, quant à lui, s'intéresse à la vaccination. L'égoïsme occidental à haute dose. Avec moins de 2% de sa population protégée, l'Afrique est submergée par la pandémie. Les pays riches, eux, songent à leur troisième injection. De plus en plus de vélos et d'accidents, titre le Dauphiné. Sécurité routière, hausse du nombre de morts chez les cyclistes. Et puis, Ouest-France nous annonce un week-end en or aux Jeux Olympiques. Les sports collectifs français s'avancent vers leur plus grand défi. Ce sera une première pour les volleyeurs qui joueront la finale. Pas pour les handballeurs, qui peut faire donc un coup double avec un titre olympique pour les hommes et pour les dames. Et avant de refermer cette édition, on va repartir à Monaco, première journée du championnat de France de Ligue 1. On vous retrouve Frédéric et Lyon. Est-ce que les équipes ont réussi à se départager Monaco-Nantes ?
Eh bien non, vous n'avez rien raté Sophie, toujours un but partout, pas d'évolution du score entre les deux formations. On joue depuis 59 minutes ici au stade Louis II. Si vous nous rejoignez seulement sur Europe 1, sachez que les Monégasques avaient ouvert le score dès la 14e minute par l'intermédiaire de Gelson Martins, qui est d'ailleurs très bon et très en jambes ce soir pour l'instant. Le Portugais qui a repris au deuxième poteau en taclant un centre du pied gauche du latéral Caio Henrique. Et puis Monaco a vraiment dominé la première période avant de concéder l'égalisation sur la seule opportunité nantaise des 45 premières minutes. Un corner tiré de la droite vers la gauche par Moses Simon, repris victorieusement de la tête par Castelletto, le défenseur central nantais. Depuis, honnêtement, on n'a pas vu grand-chose dans cette seconde période. L'une des recrues, Myron Boadou, a eu une énorme opportunité dès la 8e minute. Puis derrière, il n'a pas réussi à être trouvé par ses partenaires. C'est une rencontre plutôt équilibrée dans cette seconde période. Et deux changements déjà pour les joueurs de Niko Kovac, avec les rentrées de Wissam Ben Yedder et d'Alexander Golovin, qui étaient tous les deux titulaires lors du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions à Prague mardi. Ils sont rentrés à la place de Kevin Volland et Myron Boadou. L'heure de jeu ici, toujours un but partout entre Monégasque et Nantais.
Merci Frédéric Elion en direct de Monaco. Il est 22h18 sur Europe 1. C'est l'heure à présent de la libre antenne. Bonsoir Sabine Marin.
Bonsoir Sophie.
Comment allez-vous ?
Ça va, je vous remercie. Vous ?
Ça va très très bien.
Alors on se retrouve maintenant dans trois quarts d'heure pour les prochaines infos.
À tout à l'heure.